Bonjour à tous. Ce matin, ma prière est que le Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit puisse vraiment mettre dans chacun, dans son cœur, un mot de sa parole, peut-être plusieurs mots, que ce que je partage ne soit pas que intellectuel, sorte de amasser les informations, mais que chacun puisse écouter quelque chose de Dieu personnellement pour lui. Donc, j'attends la présentation. Donc, cette prédication est la dernière dans une série sur le livre d'Apocalypse. Et donc, j'espère être dans les temps, mais ça peut légèrement déborder parce que je ne voulais pas encore ajouter une autre prédication. Et donc, normalement 45 minutes. Si jamais vous voulez des diapos, vous pouvez m'écrire à cette adresse mail. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les prédications, je vais rapidement expliquer de quoi il s'agit. Donc, le titre est Jésus-Christ Alpha et Oméga, parce que c'est lui l'auteur de l'histoire. C'est lui qui écrit l'histoire de ce monde entier, du début jusqu'à la fin. Et nous avons, normalement ça part là, le capteur, si je me... Chacun peut prier dans son cœur que le Seigneur le prépare pour cette prédication. Donc, vous pouvez aussi prier pour moi. J'ai très mal dormi. Mon fils a son anniversaire aujourd'hui, mais il a vomi la nuit. Donc c'était 1 heure, 3 heures, 5 heures. Donc mon sommeil est un peu limité. Là, ça commence très bien. Donc on va le faire manuellement. Je veux dire, prochaine diapo. Donc, en tout cas, on a suivi ce type de boucle, en fait, donc de la création du monde à gauche. C'est l'Ancien Testament qui se poursuit en haut à gauche jusqu'à droite. On voit les différentes étapes. Donc, la création, le jugement par l'eau, on parle de Noé. Joseph, roi d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Entrer dans la terre promise, donc en Israël, puis une période de juges, rois et la diaspora du peuple juif, elle n'avait plus un pays. Et dans le retour, donc à partir de Jésus-Christ, donc l'histoire des chrétiens, une diaspora des chrétiens, ils étaient persécutés. Puis un temps sous de différents rois, un temps de juges dans lequel probablement nous nous trouvons. Nous avons discuté l'enlèvement la dernière fois. Donc est-ce que c'est la prochaine étape pour les chrétiens, et la réponse que nous trouvons dans la Bible est oui. Les plaies d'Apocalypse, donc on va parler de ça aujourd'hui. Jésus, roi de la terre, donc le millénium, qui ressemble à Joseph, roi d'Égypte. Le jugement par le feu, donc qui contraste le jugement par l'eau. Et la création de nouveaux ciels et nouvelles terres. Là. Et donc, j'ai donné le titre à cette prédication, l'Exode d'Apocalypse, de l'Apocalypse. Et pour bien comprendre la prédication, il est important aussi d'avoir déjà lu le livre d'Exode. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà certainement entendu, avec Pharaon, le peuple d'Israël en Égypte. Et puis Dieu a fait un chemin pour que le peuple d'Israël a pu retourner dans la terre promise. Le livre d'Apocalypse, si on le lit de façon isolée, sans lire les autres livres dans la Bible, est un énigme. On le comprend très peu ou mal. Et c'est comme ces deux chiffres-là, c'est 3, 0, 13, 8, 4, 11. C'est un énigme. Qui sait de quoi il s'agit? Personne ne sait. C'est pas si compliqué. C'est Daniel, donc mon prénom. Si on donne à A 0, à B 1, etc. Donc, ce n'est pas si compliqué, mais il faut une clé pour comprendre de quoi il s'agit. Et le livre d'Apocalypse, à l'époque, était adressé aux Juifs dispersés dans le monde. Donc, c'était des gens avec une connaissance de l'Ancien Testament, surtout de la Torah. Et donc, eux, ils ont bien compris de quoi il s'agit, parce qu'ils ont eu la clé pour comprendre. Mais des gens, si quelqu'un le lisait juste comme ça, il n'a pas vraiment bien compris de quoi il s'agit, parce qu'il n'était pas instruit dans la Torah. Donc, c'est pour ça que l'Ancien Testament est important pour comprendre de quoi il s'agit dans le livre d'Apocalypse. On a résumé la dernière fois un scénario. J'ai dit aussi qu'il y a un débat, pas nécessairement sur l'enlèvement, ça aussi un petit peu, mais je crois qu'on peut être très sûr qu'il y aura un enlèvement des chrétiens de ce monde, que Jésus revient et cherche les siens avant le jugement. Mais il y a un débat, quand exactement sera cet enlèvement? Est-ce que ça sera avant l'Antichrist se révèle, ou peut-être au mi-temps, etc. Là, il y a pas mal de débats, et je dirais qu'il y a toujours beaucoup de débats, des choses ne sont pas à 100% sûres. Donc, je vais vous rapidement expliquer le scénario. Il y aura une période de 7 ans qui s'appelle la tribulation, donc c'est dans l'avenir, des choses qui vont venir. Pendant 3 ans et demi, donc, les chrétiens seront enlevés, ils resteront évidemment les non-croyants sur cette terre, les juifs qui ne croient pas en Jésus, plus les juifs qui croient en Jésus, c'est 144 000 qui sont marqués, et des personnes qui n'ont pas une relation vivante avec Dieu. Et pendant ce temps-là, l'Antichrist va se révéler, il y aura une apostasie, et déjà aujourd'hui on peut dire qu'il y a une certaine apostasie, des gens se tournent, ou au moins ils étaient instruits par rapport aux choses du vrai Dieu, et ils se tournent vers des idoles, vers d'autres choses, ils ne veulent plus rien savoir du christianisme. Donc je crois qu'on peut déjà dire qu'on est dans un temps d'apostasie qui commence. L'Antéchrist va faire un contrat avec Israël pendant 3 ans et demi, puis au milieu, et ça c'est une période qui confirme Jésus, le prophète Daniel, et aussi le livre d'Apocalypse, donc au milieu il y a cet événement qui est très important, l'Antéchrist s'autoproclame Dieu, et ce contrat est rompu avec Israël et on commence une persécution des Juifs ou du peuple hébreu. Donc l'Antéchrist fait ravage et c'est pour ça que ce temps-là s'appelle la grande tribulation. Nous allons voir aussi que Dieu a préparé une fuite pour son peuple dans le désert, qu'il puisse fuir l'Antéchrist. Et puis au bout de 7 ans, donc les 3 ans et demi plus 3 ans et demi, il y a Christ qui revient et on a la bataille d'Armageddon. La dernière fois, on a comparé différents types de précédents de Antéchrist. On a dit qu'il y avait le Pharaon, donc le Antéchrist de l'Ancien Testament. On a parlé de Hérode le Grand, on va en reparler aujourd'hui. On a parlé de Néron et de Hitler. Et le Antéchrist est une figure, pas avec des cornes, etc., même si plus tard, peut-être je montre quelques photos par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui ressemble à Messie, mais qui est un faux Messie. Donc il y a une copie, mais pas l'original. Et là, on va voir les parallèles de l'Exode avec le livre d'Apocalypse. Donc premièrement, il y aura deux témoins. Donc nous savons que Moïse et Aaron sont allés vers le Pharaon pour lui annoncer la parole de Dieu. Donc dans le livre d'Apocalypse, nous lisons les deux témoins ici. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtu de sac, pendant 1260 jours. Donc c'est à peu près 3 ans et demi. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Si on regarde dans l'Ancien Testament, c'est les pouvoirs qu'il a eu le prophète Élie, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Donc ça, on sait, c'est une espèce de Moïse dans le livre d'Exode, chaque fois qu'ils le veulent. Donc Exode et Apocalypse, il y a deux témoins. Et puis, c'est quelqu'un qui a un réveil, c'est le mien? Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Pardon. Donc, dans l'Exode, ces deux témoins vont à un bout de moment et vont être tués par l'Antéchrist. Après, Dieu les enlève au ciel. Et puis on lit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville Jérusalem s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc c'est la seule fois qu'on lit dans le livre d'Apocalypse que les gens donnent la gloire au Dieu du ciel. Mais on parle d'une localisation spécifique, on parle de Jérusalem. Donc il se passe quelque chose dans le peuple juif qui commence à être préparé de comprendre les actes de Dieu. Et ici, il donne gloire au Dieu du ciel. On a aussi dans l'Exode les sorciers. Donc ceux qui connaissent l'histoire, Moïse, pour prouver qu'il est envoyé de Dieu, ou je crois que c'était Aaron, il a un bâton qui le lance par terre et ça se transforme en serpent. Et puis, voilà, je vais lire le... Oh, je peux le décrire, c'est peut-être plus pratique. Donc, et ce serpent-là, il est une preuve que Moïse était envoyé par Dieu. Les sorciers en Égypte, ils font la même chose. Ils envoient des bâtons et ça devient aussi des serpents. Et finalement, le serpent de Moïse mange le serpent des sorciers. Donc les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient les actes de Dieu. Qu'est-ce qu'on lit sur le faux prophète dans le livre d'Apocalypse? La deuxième bête, donc le faux prophète, opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Qui a fait ça? Élie. Donc il copie les actes d'Élie et à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par le signe qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête. Donc le diable, il aime bien copier des choses de Dieu, de faire de façon, voilà, moi je suis le vrai Messie, qui n'est pas le cas. Exode, on a les 10 plaies d'Égypte. Apocalypse, on a les plaies d'Apocalypse. Et si on les compare, et ce que je fais pour vous, c'est on a 6 plaies qui se retrouvent dans le livre d'Apocalypse, qui se trouvaient déjà dans l'Exode. Évidemment, tout beaucoup plus monstrueux, beaucoup plus grand, beaucoup plus démoniaque, mais ce sont les mêmes types de plaies. Donc on a l'eau transformée en sang, qu'on voit ici en haut à gauche, un grêle qui frappe les bêtes et les hommes. Les grêles sont très très grands, le livre d'Apocalypse, 50 kilos, donc 50 kilos c'est énorme, c'est pesant. Il y a différents types d'ulcères et de plaies, des mangeaisons sur la peau, etc. Il y aura des sauterelles. Ici, dans Apocalypse, on lit de sauterelles de façon démoniaque. Des obscurités, vous voyez, c'est très obscur ici. Et l'ange de la mort. Donc, tous ces types-là se reproduisent. Donc les Juifs, à l'époque, ils ont bien compris qu'il s'agit d'un deuxième exode, en fait, du peuple hébreu. Dans l'Exode, on lit aussi « Le Pharaon endurcit son cœur ». Le cœur du Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. C'est une personne qui reste très têtue. Même quand les sorciers commencent à dire « C'est vraiment les œuvres de Dieu », lui, il reste têtu, il ne veut pas bouger. Livre d'Apocalypse, on lit la même chose, mais pas sur une personne, mais sur une population entière. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Un peu plus loin, les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et leur ulcère, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc un cœur endurci, la population, elle ne veut plus changer d'avis, même si les œuvres de Dieu sont évidentes. Mais eux, ils restent têtus, ils restent dans leur blasphème, ils restent dans leur idolâtrie, et le jugement de Dieu est clair. Dans les deux exodes Apocalypse, la pression augmente sur le peuple de Dieu. On lit en Exode, donc les Juifs étaient déjà des esclaves, mais là, ils n'ont pas fourni la paille pour faire des briques. Et si vous voulez voir ces briques-là, c'est assez intéressant. Vous pouvez voir aujourd'hui encore en Égypte. J'ai fait mon voyage de noces là-bas. Donc les briques servaient pour tout ce qu'il était construction, on va dire, pas religieux, mais mondain. Donc tout ce qu'il était religieux était construit en pierre. Et tout ce qu'il était gouvernement, des habitants personnels du pharaon, etc., tout ça, c'était avec des briques en terre, avec la paille. Donc c'était énormément de construction. Et tout ça, c'est un travail d'esclave. Donc les inspecteurs les pressaient en disant « Finissez votre ouvrage journalier comme quand il avait de la paille. » On frappait même les commissaires des Israélites établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Cette fois, pas en Apocalypse, mais dans une écriture apocalyptique en Matthieu, nous lisons la même chose, que la pression augmente. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Donc c'est au milieu de ces 7 ans, 3 ans et demi, on parle. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Donc une grande tribulation arrive après 3 ans et demi et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un conseil à ceux qui croient sa parole. Donc on parle des juifs messianiques, ceux qui croient en Jésus, qui lisent la parole, ils sont avertis et on peut regarder où est la Judée, donc la Judée ici. Et il y a 2 textes, un dit « fuyez dans les montagnes » et un dans le désert. On peut dire « Ah, c'est 2 choses différentes », mais en Israël, c'est la même chose. Car les montagnes et le désert, c'est le même lieu, donc ici à droite. Voilà, regardez d'en haut, vous allez bien voir la ligne à droite, tout est blanche. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui pousse parce que la pluie arrive de gauche et elle reste, un peu de géographie, elle reste ici coincée. Donc ça ne dépasse pas, c'est pour ça qu'on a la mer morte ici à droite. Donc, les gens sont avertis de fuir de Judée ici, dans le désert, dans les montagnes. Et donc, c'est une parole qui ne nous concerne pas. Parce que nous, on est en Bretagne, on n'est pas en Judée. Donc, c'est une parole pour les Juifs, pas pour nous. Et ça, c'est aussi important à retenir. Le livre d'Apocalypse, Dieu a commencé son œuvre avec le peuple d'Hébreu, il va le finir avec le peuple d'Hébreu. Et on va le lire ça un peu plus tard, mais il faut retenir ça. On ne peut pas tout appliquer pour nous, parce que certaines choses, c'est vraiment pour les gens qui vivent sur place, des Israélites. En Apocalypse 12, on lit de cette fuite, mais de manière illustrative. Je vais vous lire le texte. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, donc 7 bêtes ici. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Donc ce sont les fameux 3 ans et demi. Donc la femme est un symbole pour plusieurs choses. Tout d'abord, si on va dans le passé, c'est évidemment Marie, la Vierge Marie qui est tombée enceinte avec Jésus et qui la persécute, qui veut tuer l'enfant, Hérode le Grand. Donc Hérode le Grand, un précédent de l'Antéchrist. Mais là, on parle 3 jours et demi, et ils s'enfuient évidemment en Égypte. Donc, ils étaient dans le désert pendant un certain temps, peut-être 3 ans et demi. Mais là, on parle aussi de l'avenir. Donc, la femme, un symbole pour Israël, que l'Antéchrist veut dévorer, veut détruire, et Israël peut s'enfuir dans le désert à nouveau et est nourri pendant 3 ans et demi. Donc, Israël quitte l'Égypte, si on compare avec Exode, et se réfugie dans le désert. Et donc les autres, qu'est-ce qu'ils arrivent aux autres qui n'arrivent pas à se réfugier? Parce qu'on sait, il y aura encore des mondes qui vont se convertir pendant ce temps-là, des juifs, des non-juifs, et qui vont se convertir vers Jésus parce qu'ils voient probablement l'enlèvement, ce que ça implique, et donc ils vont donner leur vie à Jésus, et on sait des choses sur leur avenir. Donc lui, on parle de l'Antéchrist, fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça, c'est pas très positif, hein. Si quelqu'un dit... Le diable va vaincre l'église de la bonne nouvelle. On va voir plus tard, il y aura une bonne nouvelle par rapport à même ce texte-là. Mais là, le texte est très négatif au début. Il ne donne pas beaucoup d'espoir. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc le texte était écrit pendant un temps de persécution. Et l'auteur Jean, donc à l'époque de 80 après Jésus-Christ, il ne dit pas aux gens, allez vous construire un bunker avec, ou un blockhouse avec beaucoup des réserves de riz ou des pâtes, etc. Non, il dit tout simplement, si votre destin est de mourir comme un martyr, vous allez mourir comme des martyrs. Si vous devrez aller en captivité, allez en captivité. Il y a évidemment aussi le passage de Matthieu, que j'ai déjà lu, de fuir de Judée dans le désert. Mais il semble que c'est très local et les autres ne peuvent plus fuir. Mais on verra, ça aura une bonne fin. Donc ça sera tout à la fin de la prédication que ces choses-là changeront. Un autre passage qu'on va couvrir aujourd'hui, Apocalypse 12, jusqu'à la fin. Donc c'est beaucoup de textes, mais j'espère que vous allez me suivre. Un autre texte, Apocalypse 14:1. Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes. Donc c'est des juifs convertis. Donc 12 fois 12 000, donc 12 tribus, chaque fois 12 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. L'image de quelqu'un qui connaît la Torah, c'est évidemment le déplacement du peuple hébreu dans le désert. Et on voit le campement de Dieu, donc le lieu très saint au milieu, et autour les 12 tribus. Donc Dieu forme autour de lui un peuple saint, même dans cette catastrophe. Après, qu'est-ce que fait l'antéchrist? Évidemment, il n'aime pas le peuple de Dieu. Il veut l'écraser, et comme Hitler, il veut écraser le dernier juif. Là aussi, il veut écraser le dernier juif, la dernière personne qui croit en Dieu. Donc, il se prépare pour la bataille. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de le rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon se trouve au nord de Jérusalem, donc en Israël. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval, dans cette image-là c'est Jésus, et à son armée. Donc Armageddon, c'est un peu comme toute la terre, les rois, étaient séduits par les démons pour attaquer, j'ai mis ici la ville de Seigneur des Agneaux, mais on voit l'armée sombre qui arrive, ils sont tellement nombreux, ils vont écraser le reste qui est du peuple hébreu. Donc c'est un peu l'image, il n'y aura aucun espoir pour une victoire. Mais ce n'est pas le dernier mot, parce que Jésus arrive. Hein. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il le fera paître avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et je me suis dit, c'est quelque chose qu'on doit encore proclamer ensemble. Et peut-être on peut le faire ensemble, de dire « Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus est roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Et ça, c'est formidable. Et moi, quand je lis ça, ça me frappe. Seigneur est roi des rois, Seigneur des seigneurs. On peut le proclamer dans toute situation, dans la vie aussi. Seigneur est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Quelque chose vous arrive, vous dites, ça, c'est peut-être quelque chose qui me frustre, il n'y a pas de solution, mais Seigneur, tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je proclame ça. Je vis un ange debout dans le soleil et cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui le montèrent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. On voit, il n'y a nulle personne qui peut faire résistance au Seigneur des seigneurs, au roi des rois. Au Seigneur des seigneurs, au roi des rois, personne ne peut lui résister dans sa colère. Et c'est exactement ce qu'il se passe, comme on l'a lu la dernière fois. C'est cette pierre qui tombe du ciel, qui détruit toute œuvre humaine, parce que c'est Jésus. Il n'y a personne comme lui, ce qu'on a chanté. C'est lui qui va établir son royaume, le millénium. En ce jour-là, et là c'est intéressant, donc le peuple juif, qu'est-ce qu'ils attendent ou attendaient quand Jésus était sur la terre? Ils attendaient qui? Seigneur des seigneurs, roi des rois. Ils attendaient le Messie, un roi. Mais ce n'était pas le roi auquel ils attendaient. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive et qui est un véritable roi. On est d'accord? C'est un véritable roi et donc le peuple de Juifs, il est déjà préparé et ils vont se convertir. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et j'ajoute celui qu'ils ont crucifié. Ils ont dit que leur sang tombe sur nous. Et c'est arrivé. Ils ont dû subir des milliers d'années, on peut dire 2000 années d'histoire, vraiment des choses très terribles pour eux. Mais maintenant, le temps est bientôt proche, à mon avis, pour une libération de ce peuple, pour un exode du peuple juif, mais aussi un exode de tous les chrétiens. Jésus dit lui-même, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui habite ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. » Ils n'ont pas voulu au début. Leur cœur était endurci. Voici votre maison, vous êtes laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le peuple juif va dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça, c'est la parallèle qu'on trouve à nouveau dans l'Exode. Joseph a une image pour Jésus. Le peuple juif ne l'a pas reconnu. Ses frères n'ont pas reconnu. Mais là, d'un coup, les écailles tombent des yeux. Ils voient Joseph, leur libérateur, leur Messie. Et on va peut-être parler de ça dans une autre prédication, parce qu'aujourd'hui, le temps ne suffira pas. Mais gardez ça en tête. L'Ancien Testament, il n'est pas tout vieux, etc. Il y a tellement de parallèles. Dieu a fait des choses de sorte que toute écriture a encore aujourd'hui quelque chose à nous dire. L'apôtre Paul, il sait que le peuple hébreu s'est que partiellement converti. Ils n'ont pas vraiment voulu écouter Dieu. Ils ont beaucoup opposé, beaucoup résisté à ses prédications. Mais il sait, il dit, je vous dis un mystère, et donc on va lire ça. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme des sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et Jésus parle de ça aussi, une totalité des païens. Donc, une fois que la totalité des chrétiens sera achevée pour les païens, là, le temps commence pour Israël. Donc, comme je l'ai dit avant, Dieu a commencé son histoire avec Israël et il va la finir avec Israël. Une image que beaucoup de gens ont peut-être en tête. C'est un peu l'image aussi que Hollywood souvent nous donne avec Seigneur des Anneaux, la Guerre des Étoiles. C'est que les méchants et les bons, on va dire, et voilà, c'est toujours à peu près le même pouvoir. Et juste au dernier moment, voilà, la bataille est gagnée par quelqu'un se relève et il peut encore frapper l'autre, etc. Donc on a ça aussi des fois en tête avec Jésus et le diable. Mais cette image est complètement fausse. Car Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il n'y a personne qui peut le résister, et donc le diable ne peut le pas résister non plus. Hein. Donc ce qu'il arrive, c'est évident. Il n'y a pas de bataille, on dit une bataille d'Armageddon, il n'y aura pas de bataille, une vraie bataille, parce que directement, le prochain verset ne dit pas Jésus est une fois à gauche, une fois à droite, et après le diable l'a tapé dessus. Non, on dit juste, on lit, et la bête, donc l'Antéchrist, fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait opéré devant elle le signe par lequel il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Donc, c'est tout simple. Jésus prend la bête, son prophète, et hop, dans les temps de fer et de feu. Il n'y a pas de question qui est plus fort ou s'il y a une bataille. Les choses sont claires et nettes. Donc, un jugement par le feu qui contraste le jugement par l'eau qu'on trouve en Exode. Donc, le pharaon, de sa folie, il pensait faire guerre à Dieu et Dieu l'a noyé. Donc, voilà. C'était tout simple. L'eau s'est écoulée sur lui, fini. Il n'y avait pas une grande bataille. Et le diable. Puis, je vis descendre du ciel un ange. Et on sait que le diable est un ange déchu qui tenait la clé. Pardon, là c'est un autre ange évidemment, qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Moi je trouve ça toujours un peu bizarre. Pourquoi encore cette époque? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas détruire tout le monde d'un coup? Le faux prophète, l'antéchrist, le diable, tous dans le feu. Mais Dieu a fait des promesses, où il y a des prophéties dans l'Ancien Testament par rapport à Jésus, qu'il va régner déjà sur cette terre. Et donc il faut que ça s'accomplisse et que Jésus va régner. Et pourquoi Satan a encore une petite pause de 1000 ans, ça on ne sait pas encore à 100%. Mais Dieu il a pourvu deux choses. Dieu ne commet pas des erreurs. Des fois, ça peut sembler comme une erreur, mais il ne le fait pas. Donc, c'est des choses qu'il a prévues comme ça. Donc, le millénium commence. Donc, Christ établit son règne et Christ régnera pendant 1000 ans. Donc, il y a juste un empire qui a régné 1000 ans, c'était l'empire romain. Et là, ce sera le millénium, donc l'empire du Christ. Ce qui est intéressant pour ces 1000 ans, on ne trouve que 3 versets dans le livre d'Apocalypse. Et on peut se dire, c'est quand même un peu maigre, autant d'années que 3 versets. Mais c'est pas nécessaire d'écrire plus que 3 versets parce que nous avons des psaumes, Ésaïe, Évangile et l'Apocalypse. Donc on a beaucoup plus de richesses dans la Bible qui nous décrit qu'est-ce qu'il se passe pendant le millénium. D'abord, qui régnera avec le Christ? Ça, l'Apocalypse va nous dire. Et ça, c'est la bonne nouvelle par rapport à ce qu'on a lu avant. Donc l'Antéchrist a eu la victoire sur les chrétiens. Les gens sont des fois morts comme martyrs, etc. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache, donc une décapitation. Donc beaucoup de gens pensaient à l'État islamique par rapport à ça. Je dis ça juste entre parenthèses, on n'est pas sûr. À cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. J'ai mis entre parenthèses, peut-être aussi d'autres chrétiens qui vont régner avec Christ à ce moment-là. Toujours une question un peu compliquée. Donc, qui va exactement vivre une résurrection à quel moment? Et je mets ça juste en point d'interrogation. C'est un sujet où je dois m'encore renseigner, j'avoue. Et je ne vais pas vous dire ça. Mais en tout cas, on sait ceux qui étaient martyrs pour Jésus-Christ. Ils n'ont pas attendu longtemps dans la tombe, peut-être 7 ans, peut-être 3 ans et demi. Et après, ils vivront cette résurrection et ils vont régner avec Christ. Comment Christ régnera-t-il? Beaucoup en cette image-là. C'est bien mignon, hein, c'est pour les écoles bibliques. Le lion et l'agneau vont paître ensemble. Il y aura des transformations biologiques, c'est sûr, parce que là, le lion va manger de l'herbe. Ça, on sait. Donc, c'est écrit dans Ésaïe 65, 25. Mais on lit aussi d'autres choses sur cette période-là, ce que je vous montre maintenant. Psaume 2,7, mais c'est confirmé aussi en Apocalypse et en Ésaïe. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré. Donc Dieu parle par rapport à Jésus. Hein. Aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu le briseras avec un sceptre de fer comme le vase d'un potier. Tu le mettras en pièces et maintenant roi et du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Ésaïe 11,4. Mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture et sera l'arbitre des malheureux sur la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Psaume 110. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Donc on parle beaucoup d'un sceptre de fer. Et ce n'est pas un sceptre de polystyrène où on peut taper dessus et ça fait pas mal. Là, c'est un sceptre de fer, ça veut dire Jésus règne avec pouvoir, avec autorité et il accepte aucun mal. Il n'accepte pas qu'il y aura des gens qui vont gruger, entre guillemets, le système, qui vont opprimer le méchant. Et ce qui est intéressant aussi, je vais dire ça plus tard, c'est ce que dit Jésus dans la montagne, ou le serment des béatitudes, se réalisera. Ça ne sera pas les criminels et les plus forts, les plus violents qui régneront avec lui, mais ça seront les doux, ça seront les humbles d'esprit. Donc le système qu'on vit en ce moment sera complètement inversé. Et ce qui est intéressant, il n'y a qu'une tombe des Égyptiens, des pharaons égyptiens qui est encore intacte, quand ils l'ont trouvée. Peut-être il y avait encore quelques autres, mais une tombe importante, c'est celle de Toutanhamon. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est des sandales. Voilà, des jolies sandales, mais on voit quelque chose dessus. On voit à gauche les Hittites, à droite les Nubiens. Donc c'est des ennemis du Nord, donc pour les Hittites, et à gauche, les Nubiens du Sud. Et ça m'a beaucoup rappelé que, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, le pharaon, il met ses sandales, et dans son esprit, il marche sur ses ennemis. Et Jésus fera la même chose. Tous les matins, il va mettre ses sandales et marcher sur ses ennemis. Et pendant 1000 ans, ça se passe très bien. On sait aussi d'autres choses. Ésaïe 65, 20. Il n'y aura plus là de nourrissants vivants, quelques jours seulement, ni de veillards qui n'accomplissent pas ces jours. Car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pêcheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, et planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Donc on voit quand même une grande partie de la population vit en paix, en justice, et ça sera comme un paradis. Donc les gens puissent récolter les fruits, puissent manger, puissent travailler, se construire quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, on voit en Genèse, et Robert a déjà parlé de ça, l'impact du péché. Donc, met tout ça là, 969 ans. Et Dieu dit, voilà, on va le limiter à 120 ans. Je ne veux pas que mon esprit vive plus longtemps dans l'homme. Maintenant, en Ésaïe, on voit qu'en millénium, les gens, on va dire, les plus méchants vivront que 120 ans ou quelque chose, et après, tous les autres vivront beaucoup plus longtemps. Donc, les choses s'inversent et on s'approche à ce qu'il était, les conditions du paradis. Donc, ce que j'ai déjà dit avant, qui va régner, et ça, ce n'est pas juste des gentils mots en Matthieu 5,5, c'est des prophéties. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Parce que quand Jésus règne, c'est les doux qui régneront avec lui. Ce n'est pas les méchants. Hein. Donc, après ces 1000 ans, qu'est-ce qu'il arrive? pour des raisons, comme je dis, des fois ça reste un peu mystérieux, mais Dieu va encore relâcher Satan de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre, le nombre est comme le sable de la mer, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc à nouveau, il y a une bataille, mais ce n'est pas une vraie bataille parce que la bataille est rapidement terminée. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et cette histoire, donc on recule, c'est vraiment l'histoire de Adam et Ève à nouveau, pas juste sur deux individus, mais sur le peuple de la terre entière. Parce que qu'est-ce qu'il fait le diable? Il séduit la population, il dit à Jésus, il régnait quand même avec un sceptre de fer, et pas très gentil avec vous, donc il faut mieux que vous fassiez une révolte. Donc l'esprit de révolte revient, et à nouveau un jugement, donc ils seront expulsés de ce paradis. Et puis on va le dire, après ces 1000 ans, il y aura le jugement dernier. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leurs œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Là, évidemment, il y a ce fameux livre de vie. Et des fois, on peut mal interpréter ce livre de vie et dire « Oui, mais regardez, selon leurs œuvres. » Et donc, si j'ai commis des bonnes œuvres, je vais être dans ce livre de vie. Mais ce livre de vie, les noms de ceux qui sont inscrits, c'est les noms de ceux qui ont fait quoi ? Un choix pour une relation avec Jésus. Ceux qui sont inscrits, ainsi que leurs œuvres. Donc les deux sont inscrits, et pourquoi est-ce qu'on sait ça? Je vais vous montrer ça plus tard, parce que l'apôtre de Paul a écrit sur ça. Donc les œuvres, même si ça semble voilà, un peu négligeable avec l'œuvre de la grâce, les œuvres apparemment aussi auront un impact. Et pour mieux comprendre ce qu'il a écrit là, on va regarder le tableau de Michel-Ange, dessiné ou fait en 1541, on peut le visiter en Italie. Et je trouvais cette population à l'époque ne pouvait pas lire. Et donc, dans l'église, il y avait beaucoup de tableaux pour les instruire par rapport à la parole de Dieu. Et je trouve qu'elle a fait un très bon travail. Il était un peu critiqué parce qu'elle a un peu trop de nudité. Donc, plus tard, ils ont mis vêtements, ils ont dessiné des vêtements pour couvrir les parts un peu intimes. Mais je crois qu'elle a fait un très bon travail pour illustrer ce qui se passe. Donc, les morts. Et tous les morts, ce qui est intéressant, ce n'est pas que les chrétiens, mais tous les morts ressusciteront. Donc, il a pris des squelettons qui vont être. Il y aura la chair qui sera dessus, etc. Et ils vont vers le jugement dernier. Il y a le fameux livre de vie. Et donc, là-dedans, ils vont lire les noms. Et c'est un ange qui va le lire. Jésus va entendre le livre de vie, est-ce qu'il est écrit dedans, et faire son jugement. Et tout le monde va le regarder avec crainte, avec peur, des fois avec peut-être avec un sentiment de sécurité, des fois avec beaucoup d'insécurité, parce qu'ils ne sauront pas qu'est-ce qu'il arrive. Et Christ va régner et dire ou juger le monde entier. Il y a donc Michel-Ange, qui apparemment a mis sa propre tête, et il met ici un vêtement, et ce n'est pas un vêtement, c'est sa peau en fait. Et on lit en 1 Corinthiens 3, 15, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Donc on voit les œuvres, et ça reste aussi un certain mystère, sont importants, pas pour être sauvés, mais apparemment pour des récompenses au ciel. Et ça nous rappelle aussi du parabole avec les dents. Chacun a eu une dent différente, ils ont utilisé différemment. Et donc c'est un encouragement pour nous aussi de dire, voilà, je ne peux pas me juste reposer et dire je suis sauvé, je connais le Seigneur, mais je vais devenir actif pour lui. je vais utiliser ce qu'il m'a donné pour sa gloire. » Et donc le peintre ne se considérait pas digne. C'est un peu comme sauver sa peau. Il est juste, voilà, à travers le feu, sauvé. Les autres qui sont sauvés, ils s'accrochent à la croix. Parce qu'ils savent que pour être inscrit dans le livre de la vie, il faut s'accrocher à la croix. Il faut croire dans l'œuvre qu'a fait Dieu en Jésus-Christ à la croix pour eux. Et ça, c'est le seul lieu de refuge. Sinon, on tombera de ce jugement-là, dans, comme dit la Bible, dans l'enfer. Et ça peut être aussi un truc qu'on n'en prêche presque plus. C'est un sujet délicat, on ne veut pas choquer les gens. Et ça fait très Moyen-Âge aussi. Vous voyez ici, voilà, les monstres qui sont dans le feu. Mais si c'est vrai qu'un enfer existe et que toutes ces choses qui sont écrites dans la Bible, ce qu'on dit, qu'on croit, sont vraiment vraies, ça a l'air vraiment effrayant. Regardez ces gens-là. Ils sont effrayés parce qu'ils savent que le jugement n'était pas positif pour eux. Et ils vont passer l'éternité, donc tout le monde va vivre éternellement, mais ils vont passer l'éternité avec le diable et ses anges. Et je crois, si nous on prend ça un peu plus à cœur, que l'enfer existe réellement, le paradis existe réellement, qu'il y aura ce jugement-là, on ne va pas vivre notre foi de façon, on va dire, médiocre. Mais là, une nouvelle chose arrive. Donc le jugement terminé. Un nouveau ciel et une nouvelle terre sont construites. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc là, je mets une sorte de balle sans mer parce que je ne vois pas la mer. Et Pierre nous écrit là-dessus. Où est la promesse de son avènement? En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Donc il parle de la création. Et que par les mêmes causes, le monde alors périt submergé par l'eau, donc il parle de Noé, du grand déluge, mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu. Donc à nouveau, dans le passé, un jugement par l'eau, là un jugement par le feu. En vue du jour du jugement et de la perdition des impies, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Qu'est-ce qui arrive sur cette nouvelle terre? Je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu est l'éclair et l'agneau est son flambeau. Donc Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est approchable. Dieu se laisse toucher, voir. Donc des choses qu'on ne peut pas encore faire se réaliseront. Ce que désirent tous les chrétiens, de voir vraiment Jésus, je veux te voir, on peut chanter ce chant. Ça, c'est quelque chose qui va nous arriver. Ce qui est intéressant aussi avec Genèse, c'est Dieu éclaire ici. Dieu éclaire ce nouveau Jérusalem. En Genèse, la lumière, elle est dès le début, premier jour. Dieu dit que la lumière fut, sa présence est la lumière. Parce que le soleil, il n'arrive que jour 4. Hein. Donc aussi là, on voit, ça revient comme dès le début. Dieu est la lumière, pas le soleil. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve se trouve, donc dans cette nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie. En Genèse, on sait aussi qu'il y a l'arbre de vie pour manger et vivre éternellement. Donc les choses du paradis ancien reviennent et c'est là où nous irons. Ça, c'est l'avant-dernier texte. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui se parait pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. » Et ce texte-là, c'est un texte qu'on lit souvent pendant les enterrements. Si l'enterrement de mon père, ça m'a beaucoup touché, ce texte. De dire, il n'y aura ni deuil, ni larmes, toutes ces choses qui frappent nos vies à un moment donné. Personne ne peut y échapper. Hein, à cette... Tout le monde vivra perdra soit sa propre vie, soit la vie des autres. Et il y aura vraiment des douleurs, même sans être sous une persécution. Il y aura des douleurs, la solitude. Il y aura plein de choses qui nous accablent dans cette vie. La vie n'est pas glorieuse comme fait nous montrer Hollywood souvent, que du bonheur, non. C'est beaucoup de tristesse aussi. Et tout ça va disparaître. Et Dieu va essuyer nos larmes. Et je trouve que c'est génial de dire Dieu s'occupe de nos, voilà, de nos tristesses qu'on vit actuellement, de nos deuils. Et Dieu va restaurer tout ça, va restaurer la joie. Et lui va le faire personnellement. Et il dit, je fais toute chose nouvelle. On aura un nouveau corps. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. On aura un nouveau corps. Parce que ce corps-là, déjà moi, je le sens dégradé. Vous probablement aussi, surtout ceux qui sont un peu plus âgés. On est en voie de se dégrader. Mais Jésus, il va nous donner un nouveau corps. Et là, on est à la fin de cette série. Ou de cette suite des prédications sur le livre d'Apocalypse. Et j'espère vraiment que ce livre vous a donné l'espoir, surtout. L'espoir que ce que vous arrivez sur cette terre-là, ce n'est pas le point final. Quand il y aura une bataille qui est perdue, ce n'est pas le point final. Parce que Jésus, il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Jésus dit, je suis mort à la croix pour toi. Je le fais, ça m'a coûté un très, très, très grand prix. Et je le fais que tu aies la vie gratuitement. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite de faire ce pas et dire, Seigneur, je veux recevoir cette vie gratuitement. Ça ne coûte rien, ça coûte juste de se dire, ah, mon orgueil, des choses, voilà, peut-être mon légalisme qui me retient. Ça, je dois abandonner. Mais il y aura une nouvelle vie pour toi. Et je t'encourage de dire, j'accepte cette nouvelle vie. Et je veux apprendre ce qu'il dit la parole de Dieu sur ma vie et sur ce que veut Jésus faire dans ta vie et les œuvres qu'il a préparées d'avance. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga aussi dans ta vie. Pas juste dans la vie du monde entier, mais il a commencé une bonne œuvre en toi et il veut le compléter. Et avec ça, je prie pour nous. Seigneur, merci parce que tu es roi des rois, seigneur des seigneurs. Et Seigneur, je veux, si on retient une chose de toutes ces prédications, Seigneur, que ça sera ça. Qu'avec toi, aucune vie est liée à l'échec ou est déterminée d'être détruite parce que tu peux faire toute chose nouvelle. Et Seigneur, tu as pris ma vie abîmée et tu l'as renouvelée. Complètement. Et tout ce qu'il reste encore à faire, tu le feras. Et je te prie pour cette communauté, pour ces gens qui sont rassemblés. Seigneur, qu'on ne chante pas juste qu'on soit unis, mais qu'on est vraiment unis en toi. Et que tu fais ton œuvre dans cette église, Seigneur, que cette église puisse prier, que nos vies puissent prier pour toi. Et que les vies qui ne sont pas encore entièrement données à toi puissent être entièrement données à toi. Parce que tu es l'alpha et l'oméga et tu veux compléter toutes choses. Amen.